Et ça, c'est ça, la force de la mafia, en fait. C'est qu'elle entraîne avec elle comme un bon pourcentage de personnes du Sud qui n'ont rien, qui sont défavorisées par rapport aux autres. Donc la mafia, en fait, fait un vivier de ces gens-là, on fait un véritable petit vivier dans lequel elle peut aller piocher quand elle veut.
Pourquoi? Parce que est-ce que la mafia justement redistribue des...
Non, non elle pas entre... du tout. mais elle entretient la pauvreté.
Elle entretient la
Bien
pauvreté.
Bien sûr, elle entretient la pauvreté. Un exemple flagrant, par exemple, ce qui s'est passé dans les années fin des années 80, non, fin des années 70, pardon, début des années 80, il y a une petite ville du centre de la Sicile qui s'appelle Caltanissetta. Il y a Caltanissetta. On ne sait pas comment. On a décidé de faire une espèce, on appelle ça un raccord anulare, c'est un périphérique autour de la ville qui est digne d'une capitale. Donc, sans aucun intérêt, parce que la ville de Caltanissetta, c'est une ville qui fait à peu près 150 000 habitants. Donc bon, c'est ridicule de faire des voies de communication aussi importantes, de dépenser autant d'argent, ça ne servait strictement à rien. Donc des crédits ont été alloués par l'Europe, par la municipalité et l'État. L'argent est arrivé, on a commencé les travaux, et puis ça s'est arrêté. Ce qui veut dire que le périphérique n'est jamais terminé. Mmh. Et c'est encore vrai maintenant. Il est toujours en construction.
Mais c'est quoi? C'est la mafia qui a fait arrêter les travaux? À
mon avis, d'après ce que j'ai entendu, d'après ce que j'ai lu, la mafia a poussé les politiques à faire construire une autoroute, enfin à faire construire ce périphérique, qui a coûté je ne sais plus combien de milliards. L'argent a été envoyé, a été débloqué, l'argent a été envoyé, les travaux ont commencé, et après la mafia s'est servie. La mafia a récupéré l'argent. Mm-hmm. Ça, c'est une pratique flagrante, surtout en Sicile. Mm-hmm. Sicile, Calabre. Mm-hmm. Ça, c'est flagrant. Ça arrive souvent. Des constructions, par exemple, à Naples, lors du tremblement de terre, mm-hmm. L'argent a été débloqué pour la reconstruction des logements, etc. 10 ans après, des gens vivaient encore sur les toiles de tente. Ça, c'est des choses...
Donc en fait, mais quand les gens parlent de la mafia là-bas, c'est avec... tu disais, c'est assez ambivalent, finalement.
C'est assez ambivalent, parce que si tu veux, il y a ce mythe un peu de la mafia qui reste encore là-bas, avec cette peur, mais en même temps, une espèce d'adulation, d'adoration pour des gens qui sont... Parce que tout est secret, c'est toujours dans l'ombre, on ne connaît pas, on ne sait jamais qui c'est, on s'aperçut le paradis. Le parrain des parrains, Totorina, celui qui s'est fait arrêter là, il y a 4-5 ans, là, on s'est aperçu que c'est un pauvre berger qui sait ni lire ni écrire. Et c'est le chef de la coupole. La coupole qui est l'institution un peu... qui chapote un peu toute la mafia sicilienne.
Et c'est un truc très hiérarchisé, la mafia, comment
ça
marche?
Très 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 hiérarchisé. La mafia, ça marche... tu as les hommes de main. Mm-hmm. Donc ça, c'est le vivier commun. Ça peut être n'importe quelle personne.
C'est-à-dire, eux, qu'est-ce qu'ils font?
Par exemple, il y a un contrat sur la tête d'un politique ou sur la tête d'un homme parce que le mec n'a pas voulu céder à un chantage. C'est pas quelqu'un de l'intérieur qui va tuer le mec. Mm-hmm. Ça se fait plus, ça. C'est fini. On va prendre quelqu'un qui est très très pauvre. Mm-hmm. On va lui donner 100 000 balles, 200 000 balles. Mm-hmm. On va lui mettre un flingue dans les mains. On va dire, lui, il faut le tuer. Mm-hmm. Si toi, tu le sais pas, ta famille va avoir des problèmes. Mm-hmm. Généralement, ça se passe à peu près comme ça.
Mais comment ils choisissent les hommes de main?
Comment ils choisissent les hommes de main? Parce qu'ils choisissent souvent des jeunes, très jeunes. Quand je dis très jeunes, ça va de 14 à 18 ans, pas plus. Souvent, les hommes de main, pour la petite délinquance, et souvent aussi dans la petite délinquance, les petits voleurs, etc. Et on leur promet aussi, surtout, c'est de monter. C'est de monter, c'est de faire partie de la Cosa Nostra après. Et ils savent très bien que pour faire partie de la Cosa Nostra, il va falloir assassiner une paire de personnes avant. Il va falloir prouver que tu es digne de leur honneur. Mmh. Ensuite, donc ça, c'est les hommes de main. Ça, c'est même pas les hommes de main, c'est les sous-fifres. Tu as les hommes de main qui sont attachés directement à une famille. À Naples, tu as sept familles. À Palerme, tu as sept familles qui régissent la ville. Donc c'est divisé en quartiers. Mmh. Et chacun s'occupe d'un quartier. Donc avec tout ce qui est proxénétisme, racket, etc. sur les quartiers. La drogue, etc. Toutes les ventes, etc. Tout passe par eux. Mmh. Donc tu as ces hommes de main là, eux appartiennent directement à une famille. Mm-hmm. Ils sont l'intermédiaire, ils viennent d'arriver, ils ont été acceptés dans la famille. Mm-hmm. Donc ils ont prêté serment. Mm-hmm. On le voit dans le film Le Parrain, mm-hmm. on le voit à un moment donné, il lui brûle un papier dans les mains. Mm-hmm. Et il récite une espèce de le texte au bidon sur son appartenance à la mafia, qui dira jamais rien à personne, quoi que ce soit, qui préférera mourir plutôt que de parler. Mm-hmm. Et il y a cette fameuse voix du silence aussi, qui est toujours très très importante. Mm-hmm. Ensuite, tu as les lieutenants. Mm-hmm. Les lieutenants, eux, ils sont juste en dessous les capots. Et les lieutenants, si tu veux, c'est eux qui doivent régir, en fait, les hommes de main et les sous-fifres. C'est par eux que passent les ordres. C'est que des intermédiaires, en fait.
Ouais,
tous les ordres sont donnés par le haut. Mm-hmm. Aucun ordre discutable. Mm-hmm. Jamais. Ça ne se discute pas. Un ordre qui vient d'en haut, ça ne se discute jamais. Mm-hmm. Les ordres qui viennent d'en haut, généralement, ont à voir avec des choses plus importantes. Pour tout ce qui est menu fretin, les lieutenants suffisent. Ouais. Après, tu as les capots. Les capots, c'est eux qui gèrent tous les lieutenants. Donc, c'est eux qui gèrent une armée, c'est eux qui gèrent l'armée. Ce serait un peu les généraux. C'est un peu les généraux de l'armée. Et généralement, tu en as 2-3 par famille. Et après, tu as le parrain.
Mm-hmm. Tu as le parrain. Et là, le parrain par chaque famille.
Et après, tu as un parrain par chaque famille. Et après, tu as le parrain des parrains. Totorina était le parrain des parrains. Donc, c'est celui qui gère, c'est celui qui chapeaute tout. Et tout ça, il y a une assemblée qui s'appelle la coupole, mm-hmm. à Palerme, et c'est géré par eux. Et donc, les décisions sont prises en commun, mais celui qui tranche, c'est toujours le parrain des parrains. Et il n'y a que lui qui peut trancher.
Et comment il est choisi, le parrain des parrains ?
Généralement, c'est une prise de pouvoir.
Ah ouais.
Généralement, c'est une prise de pouvoir. Donc, il y en a un qui est en place, où il arrive à tenir tout son petit monde. Et donc, par la force, par la violence, par des concessions, etc., et ça se passe bien. L'essentiel, en plus, c'est que toutes les familles mangent. Il faut que tout le monde ait à manger. Il faut qu'il y ait de l'argent pour tout le monde. Mm-hmm. Dès l'instant où il commence à y avoir un petit déséquilibre, c'est là que ça s'envenime. Mm-hmm. Ce qui s'est passé dans les années 80, fin des années 80, il y a eu des bagarres sanglantes, enfin vraiment des actes très 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 violents au sein même des familles. Mm-hmm. Ça a été très 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 violent. Et c'est Totorina qui a pris à ce moment-là le pouvoir.
Mais Totorina, lui, il appartenait à une famille ?
Oui, il appartenait à la famille, je ne me souviens plus du nom maintenant. Mm-hmm. Il appartient à une famille bien particulière de Palerme, qui est je crois que c'est la famille des Corleone, mais j'en suis pas sûr. Mm-hmm. Corleone, c'est un petit village qui est au fin fond de la Sicile. Et donc, et même on en entend parler dans le parrain, c'est les Corleone. Ouais. Mais cette famille, le parrain tel qu'il est vu dans ce film n'a jamais existé.
Ah ouais.
C'est pas un Corleone ni quoi que ce soit. Ce n'est pas vrai, ça. Mm-hmm. Ça, c'est un film. Mm-hmm. Mais par contre, ce qui est vrai, c'est que cette famille-là existe vraiment. Cette famille mafieuse existe vraiment. Mm-hmm. Et je pense que c'est. Totorina fait partie de la famille des Corleone. T'as les Genovese, t'as plein de...
Il n'a pas tendance, justement, comme il appartient à une famille, le parrain des parrains, il n'a pas tendance à privilégier sa propre famille.
C'est ce qui fait généralement qu'il saute. C'est ce qui fait que généralement, on va l'attaquer. C'est que lorsqu'il va commencer à prendre un peu plus parti pour sa famille que pour les autres, à donner plus de pouvoir à sa famille, plus d'argent sur un contrat, sur des trucs, il va... ça va être plus... On va commencer à aller houspiller un peu de partout, et puis là, à ce moment-là, c'est le bain de sang. Mmh. Ils disent là-bas digestion de plomb. Ça veut bien dire ce que ça veut dire.
Et en fait, les règlements de compte se font uniquement par l'arme, par le revolver ?
Non, c'est des fois beaucoup plus subtil que ça. Il y avait un reportage à la télévision, là, j'ai vu ça, là, c'était vachement intéressant. Ça s'appelait Planète Mafia, c'était sur la 5. C'était génial. Il y avait trois volets, c'était en trois volets, ça durait plus de 4 heures. Et il te montre, entre autres, les enlèvements d'enfants, fréquents.
Pour faire pression.
Pour faire pression. Comment on peut faire aussi ils peuvent racketter ou te faire sauter ton immeuble, etc. En tout cas, c'est toujours par la peur. La dissuasion se fait toujours par la peur. Toujours.
Tu dis même au sein de la mafia.
Même au sein de la mafia, oui.
C'est-à-dire une fois que tu rentres...
Oui, oui. Une fois que tu rentres, tu n'en sors jamais vivant. Si tu en sors vivant, c'est après la seule façon de t'en sortir, c'est quand tu te fais choper par les... Généralement, il y en a quand même beaucoup qui se font choper, il ne faut quand même pas déconner, heureusement. Et à ce moment-là, c'est ce qu'on appelle les repentis. Et l'Italie, d'ailleurs, a fait une loi pour les repentis, qui était très contestée, etc., mais qui a bien porté ses fruits.
C'est-à-dire que si le...
Le repenti, c'est-à-dire qu'on lui a transformé, on lui a commué sa peine, on lui a réduit sa peine à condition qu'il donne des informations vérifiables et qui portent leurs fruits, qui permettent d'arrêter les mafieux. Et là...
Oui, mais c'est-à-dire que s'il sort, il va se faire...
Généralement, le repenti ne vit plus en Italie. Il a changé d'identité. On lui a fourni On lui fournit un appartement, un travail. Il change toute sa vie. Toute sa vie, il a changé. Il ne voit plus aucun membre de sa famille. C'est fini.
Mais pas sa femme.
Non. Il y a un exemple flagrant, c'est... comment il s'appelle celui-là ? Il est correspondant même pour le... Pour le, un journal... Il est correspondant pour un journal et de temps en temps, il raconte un peu ce qui s'est passé, toutes les péripéties, etc. Mais après que les informations aient déjà été divulguées, etc. Au tribunal. Mm-hmm. Et c'est lui qui a permis l'arrestation de Tutorina, entre autres.
Ah, d'accord. Mais il faisait partie de la mafia ou il était infiltré dans la
mafia? Il faisait pas... Non, c'était pas une taupe. Hein. C'était un mafieux. Mm. C'était un mafieux, il s'est fait arrêter parce que il s'est fait dénoncer à un procès, etc. Et à ce moment-là, on lui a proposé. Mm. On lui a proposé de... Voilà. Si tu parles, on réduit ta peine, tu te barres d'ici, etc. Tu n'as plus de... On change ton identité.
Mm-hmm. Et alors, tu as un certain nombre de... Pour monter, là, entre l'homme de main et au capot, tu as quand même un certain nombre d'épreuves, non ?
Oui, il y a des épreuves. Bon, les épreuves sont par le feu, c'est aussi la vieillesse. Malheureusement, il y en a quand même qui arrivent à la retraite, hein, qui arrivent à laisser un peu de pouvoir. Donc à ce moment-là, il y a un conseil qui se réunit dans la famille, quand c'est uniquement pour la famille. Alors ils se réunissent dans la famille et il y a un lieutenant qui va passer capot, etc. Et ainsi de suite. Mm-hmm. Mais généralement, le parrain de la famille reste toujours un membre de la famille de base, du noyau de base. Tu sais, au départ, c'est des familles, des véritables familles. Pourquoi on appelle ça des familles ? En fait, c'est très très simple.
Tu as
une famille à part entière, donc un père. Avec ses frangins, ses petits-enfants à la limite, et lui, donc ça c'est une première famille. Sur cette famille, ils vont se greffer d'autres familles, qui vont être les lieutenants, les capots, etc. Tu vois, et tout ça, ça fait une grande famille. La famille des Tutorina, par exemple, ça c'est une grande famille. Mais au sein même, tu t'aperçois bien qu'il y a, il existe quand même des cellules, en fait, mm-hmm. propres, et généralement la cellule commandante, le pouvoir reste toujours dans la cellule commandante. Bon, mis à part s'il y a un retournement par la force du pouvoir. Mais ça arrive assez fréquemment. Mmh. Bon, en ce moment, ça s'est un peu calmé parce qu'on leur fait bien la chasse.
Ça date de quand, la mafia ?
La mafia, alors, on est jamais, personne n'est d'accord sur les origines. La mafia, il y a des gens qui disent que mafia, ça veut dire mort au français, italien allegre. M-A-I-F-A. Mafia. Morte ai francesi, italiani allegri. Mmh. Ça faisait trait de Victor Emmanuel. Parce que sous Victor Emmanuel, tu avais les Français qui étaient dans les plaines de Lombardie avec Napoléon qui sont arrivés en Italie, etc. C'est resté jusqu'à sous Napoléon III. Donc toutes les milices romaines étaient françaises, etc. Et il y avait en même temps, d'un autre côté, il y avait une espèce de mouvement révolutionnaire qui voulait unifier l'Italie, avec l'unification italienne. Les gens disent que ça viendrait de là. Au départ, on serait venu chercher des bergers siciliens pour grossir les flancs de l'armée, et ces mecs-là en ont profité pour prendre du pouvoir et asseoir en fait leur pouvoir en prenant des terres, etc. C'est une version qui apparemment est assez contestée. L'autre version, ce serait une espèce de secte, comme les charbonniers, il y a eu les charbonniers en France. En Italie, il y avait exactement la même chose. D'ailleurs, c'est savoyard, ça, les charbonniers.
Mais c'est quoi cette histoire des charbonniers ?
Les charbonniers, c'était des espèces de bandits de grand chemin qui se déguisaient en charbonniers pour attaquer les gens. Et ils leur piquaient leur pognon, etc., ce qu'ils avaient, leurs denrées et tout ça. Il y avait la même chose de l'autre côté. Mmh. Ça s'appelait Carbonari. Et il y a eu... Donc, ça serait une autre version. La version la plus plausible, quand même, ce serait que... au XIXe siècle, en Italie, en Sicile en particulier, tu avais d'énormes latifundia. C'était un état féodal, la Sicile. Hein, tu avais des grands propriétaires terriens qui dirigeaient terre et hommes qui avaient sur la terre avec leurs serfs. Et en fait, au moment de l'unification, etc., la plupart d'entre eux ont laissé échapper forcément leurs terres, puisqu'il y a eu la distribution des terres. Donc ils ont perdu énormément et ils ont commencé à créer des sociétés parallèles pour gagner du pognon. Mmh. Ça, ce serait les origines. Bon, les trois versions à peu près officielles des origines de la mafia. Mmh. Ce serait ça.
Mmh. Il y a des connexions internationales, la mafia italienne travaille avec la mafia. On parle beaucoup de la mafia russe
maintenant. Oui. Alors, bon, il y a certainement des connexions internationales. On est sûr qu'il y a eu des connexions avec les États-Unis, que la première mafia qui est débarquée aux États-Unis, c'était une mafia sicilienne. Le parrain, d'ailleurs, le parrain aux États-Unis ne peut être que sicilien. le parrain enfin de la mafia italienne, ça ne peut être qu'un Sicilien, et toujours un Sicilien. Maintenant, les connexions avec les autres mafias, il y en a certainement, mais à mon avis, c'est plus pour des affaires économiques que pour du pouvoir sur les territoires. Ça a été vrai dans les années 20 jusqu'à la guerre pour les États-Unis, où effectivement il y avait une grosse mainmise sur le territoire américain, ce qui a fait très très peur aux Américains d'ailleurs. En 1944, le débarquement qui a eu lieu en Sicile, le débarquement en Sicile n'a jamais pu se faire sans l'accord du chef de la mafia de l'époque qui était en prison, qui s'appelait Lucky Luciano. Et lui, on l'a fait sortir de prison. Il est parti en Sicile et il a organisé tout ce qui était toute l'intendance en fait, pour toute la logistique du débarquement. Sans lui, ça n'aurait jamais pu se faire. Ça, c'est officiel, c'est sûr. Hein, les Américains le reconnaissent maintenant.